C'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoir.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
L'étoile du berger, qui plusieurs mois chaque année nous guide la nuit, n'est en fait pas une étoile. C'est la planète Vénus, deuxième en partant du Soleil et petite jumelle de la Terre. Pourtant, nous en savons moins à son sujet que Mars, la planète rouge. Surface quasiment inexplorée, conditions extrêmes et histoire, tout reste à découvrir. Un objectif que s'est donné la mission spatiale Envision qui partira vers Vénus en 2032, qui va étudier notamment sa géologie et son atmosphère. En partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole, partons vers Vénus avec Caroline Dumoulin, planétologue, et Sophie Potvin, notre chroniqueuse du jour, qui nous dira tout de Cosmic Vision, le programme dont fait partie Envision. Bienvenue au Labo des Savoirs avec Vision de Vénus. Caroline Dumoulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, maître de conférences au laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes Université. Et vous êtes avec Pascal Rosenblatt, qui est chercheur contractuel CNRS, l'équipe responsable de l'expérience radioscience sur Envision, une des prochaines missions spatiales de l'ESA, qui sera lancée vers 2032, je crois,
oui.
Et qui étudiera Vénus. Alors, une question toute bête, tout simple. Pourquoi Vénus, c'est un petit peu la jumelle de la Terre? Qu'est-ce qui fait qu'elle est intéressante?
Alors justement, elle est intéressante parce qu'elle ressemble en partie à la Terre. Donc effectivement, à peu près, même masse ou rayon, quelque chose près, mais voilà, pas très éloigné. Donc, a priori, elle devrait avoir, et puis aussi une distance au Soleil qui est un peu similaire, et donc elle devrait avoir, a priori, une évolution un peu similaire. Or, pas du tout. Elle a une évolution très différente, puisque à l'heure actuelle, sa température de surface, sa pression de surface, son atmosphère sont très différentes. Donc, elle ressemble, on va dire, de très loin à la Terre, et au final, de près, elle ne lui ressemble pas du tout. Elle a des paramètres orbitaux qui sont très différents aussi. Donc, au final, c'est un peu une énigme, savoir pourquoi est-ce que cette planète qui avait beaucoup de choses pour ressembler à la Terre a évolué aussi différemment d'elle. Et donc, mission vers Vénus, parce que il y en a eu très peu. Donc du coup, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre là, avec plusieurs missions qui vont aller vers Vénus.
Alors vous dites qu'elle a des masses similaires à la Terre, par exemple. À quoi elle ressemble finalement Vénus? Quel est un petit peu son portrait robot, si on devait en faire un?
Alors en portrait robot, donc c'est une planète rocheuse, comme la Terre, donc avec à sa surface des structures qui ressemblent aussi à celles de la Terre. On a des montagnes, on a des plaines, beaucoup de plaines. Peut-être 65% à peu près de la surface qui est pleine basaltique, enfin type basaltique. Des montagnes, la plus haute montagne a une élévation de 10 km à peu près. Donc c'est Maxwell Montes, qui est pas très loin du pôle Nord. Beaucoup de volcans. Très petits. Plusieurs dizaines de milliers de volcans, mais avec un diamètre inférieur à 5 km, donc très petit. Et 2000 volcans, beaucoup plus, majeurs, on va dire, donc plus importants. Le volcan le plus haut, c'est 8 km de haut, c'est Maat Mons, qui est pas très loin de l'équateur.
Est-ce qu'ils sont encore en activité? Ou ce sont des volcans éteints ?
C'est une énigme. C'est aussi une des énigmes. C'est-à-dire qu'on connaît assez peu de choses, hein, finalement, de Vénus, puisque sa surface en tant que telle a été découverte depuis les années 80, on va dire, avec plusieurs sondes. Magellan étant la sonde américaine dans les années 90 qui a cartographié toute sa surface, donc à peu près quasiment 100%, 98% de la surface, mais pas avec une très bonne résolution. Hein. La résolution, c'est 150 à 200 mètres par pixel. Donc, par comparaison, c'est ce qu'on connaissait aussi à la surface de Mars à peu près à la même époque, même un petit peu avant. Et maintenant, à la surface de Mars, on a, grâce à des caméras, des résolutions qui vont jusqu'au mètre par pixel. Donc, on n'a pas du tout les mêmes... échelles. Donc on n'a pas une cartographie très précise, mais on a quand même une image assez claire des structures en surface. Après, on va dire des structures géologiques en surface qui peuvent ressembler à certaines structures de la Terre, d'autres pas du tout. On a des structures qui s'appellent les coronées, qui sont des structures volcano-tectoniques circulaires ou quasi-circulaires. Donc ça fait des structures tectoniques un peu faillées, etc., en cercle, et puis associées avec des structures volcaniques. Et on n'a pas ce genre de structures sur Terre. Donc beaucoup de choses assez différentes, des cratères d'impact, voilà. Et puis, je pourrais dire que la caractéristique principale de Vénus par rapport à la Terre, c'est son atmosphère, puisqu'elle a une atmosphère très dense, donc une pression de surface 93 bar, donc 90 fois la pression à la surface de la Terre, et une température à peu près constante de 460 degrés Celsius, du coup très très différente de celle de la Terre. Une épaisse couche nuageuse d'acide sulfurique, avec des nuages d'acide sulfurique, et une rotation assez particulière, c'est-à-dire qu'au-delà de la vingtaine de kilomètres à peu près, l'atmosphère de Vénus tourne en ce qu'on appelle la super-rotation. Elle fait un tour complet en 4 jours.
Donc il y a une différenciation entre la rotation de l'atmosphère et la planète en elle-même.
Tout à fait, oui. La planète, elle tourne très lentement sur elle-même. Donc je vous avais dit, hein, il y a des choses très différentes de la Terre. La Terre tourne, vous le savez, en un jour sur elle-même. Donc Vénus tourne, elle, en 243 jours sur elle-même. Donc elle a une rotation très différente de la Terre. Donc la planète solide, et effectivement l'atmosphère effectue cette super rotation. Donc voilà un petit peu la cartographie. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas, on n'est pas retourné beaucoup sur Vénus, parce que Mars offrait la possibilité de poser des sondes, des rovers, d'aller explorer beaucoup plus facilement, parce qu'il n'y a pas les conditions dantesques de la surface de Vénus.
Un peu en enfer, vu les conditions.
C'est ça.
Mais alors, pour ça, quand on dit qu'elle a pu évoluer différemment de la Terre, ça veut dire qu'on pense qu'à un moment donné, elle offrait des conditions similaires à ce qu'on peut trouver sur Terre aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être autour de 0 degré ou un petit peu plus, autour de 0,20 degré, des conditions de pression similaires ici ?
Alors ça, c'est justement quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a eu, par exemple, des océans, de l'eau liquide à la surface de Vénus, et si ceux-ci ont disparu suite à une évaporation intense, une dissociation suite des molécules dans l'atmosphère, et puis un échappement de l'hydrogène, par exemple. Donc on ne sait pas, effectivement, si il y avait beaucoup d'eau au départ et qu'elle a disparu, s'il n'y en a pas eu beaucoup dès le début, si elle est à l'intérieur de la planète, si voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, justement. Donc c'est assez compliqué d'aller voir dans le passé. Donc il va falloir utiliser des modèles, hein. C'est pas que les sondes vont pas donner des solutions et des données qui vont permettre d'avoir toutes les réponses, mais ce sont des éléments de réponse qui ensuite permettent justement de mieux contraindre les modèles, puisque sinon avec les modèles on peut faire beaucoup de choses, mais si on n'a pas de données pour les contraindre et mieux les utiliser, c'est compliqué.
Tout l'intérêt de lancer une nouvelle mission spatiale, du coup Envision, dont on va parler plus précisément dans la suite de cette émission. Alors, vous m'avez également parlé sur Vénus de volcans, beaucoup de volcans et une activité sismique. C'est-à-dire que toujours en faisant des...
J'ai pas dit sismique, volcanique.
Volcanique, une activité volcanique.
Peut-être.
Du coup, j'ai anticipé ma question. Est-ce qu'il y a une activité sismique ? Est-ce qu'il y a des tremblements de terre comme sur Terre ou apparemment aussi comme sur Mars ?
Alors ça, c'est aussi pareil, une question à laquelle il est difficile de répondre. La température de surface fait que, et la température et la pression de surface fait que on a peut-être moins de possibilités pour avoir des ruptures. Donc le domaine, on va dire, fragile de cassant de la croûte est peut-être moins développé. Après, bon, ça va quand même dépendre peut-être aussi de l'altitude, des contraintes, etc. Donc c'est on ne sait pas, en fait, si on aurait éventuellement quelque chose à observer. Après, il faut savoir que la sonde... Donc, les Russes avaient posé, dans les années 75 à 85 à peu près, avaient posé des sondes, les sondes Venera. Celle qui a duré le plus longtemps à la surface a duré un peu plus de 2 heures. Donc, si on veut enregistrer quelque chose, si on veut poser un sismomètre comme à la surface de Mars, à la surface de Vénus, il va falloir quand même travailler pas mal sur la technologie pour améliorer ça. Mais l'activité volcanique, elle va être plus facile à observer de manière indirecte, en particulier grâce au radar, parce que si on cartographie de manière plus précise la surface de Vénus, en particulier des points un peu sensibles, on va dire, avec donc sur un temps assez long. Donc la mission Envision a prévu de rester ce qu'on appelle 6 cycles vénusiens, c'est-à-dire 6 années vénusiennes, ce qui correspond à peu près à 4 années terrestres. Et donc on espère voir des modifications, c'est-à-dire que s'il y a une coulée de lave, ben on la verra. Entre 2 images différentes, voilà, on va pouvoir voir des différences. On va pouvoir comparer aussi aux images de Magellan, donc qui avait une résolution pas très très bonne, mais s'il y a quelque chose d'ampleur, on pourra voir la différence. Et puis, il y a aussi la mesure de certains composés atmosphériques, donc avec des spectromètres, en particulier des composés du soufre, qui est un gaz, enfin le dioxyde de soufre est un gaz qui est aussi émis par les volcans. Donc ça a été remarqué, ça, dans certaines, avec l'émission Vénus Express et puis des missions antérieures, qu'il y avait une fluctuation des mesures de dioxyde de soufre dans la haute atmosphère de Vénus, et on ne comprend pas bien pourquoi. C'est-à-dire que soit c'est parce qu'il y a une activité volcanique, soit c'est le cycle du soufre qui est très particulier avec les nuages, je vous ai dit, avec de l'acide sulfurique, etc. Donc, en tout cas, il y a des fluctuations qui ne sont pas expliquées, qui ont été mesurées, qui ne sont pas expliquées.
L'atmosphère de Vénus, comme vous m'avez dit avant, est vraiment particulière. C'est vraiment ce qui fait un petit peu son identité. Elle a vraiment une atmosphère chargée en soufre, en dioxyde de soufre.
Et surtout en dioxyde de carbone.
Et en fait,
le premier composé, c'est le dioxyde de carbone, 96%, quelque chose comme ça, quasiment. Donc c'est très très important.
Donc le CO2, comme on peut en avoir sur Terre.
Oui, mais alors beaucoup plus.
Beaucoup plus. Du coup, est-ce que par exemple, on a une espèce d'effet de serre aussi qui se déroule?
Mais très très fort. Oui, c'est pour ça qu'on a justement qu'on a des températures qui sont beaucoup plus importantes à la surface de Vénus. C'est pas du tout sa proximité au Soleil, puisque sa proximité au Soleil est en quelque sorte contrée par le fait que, comme elle a une épaisse couche nuageuse, elle a un albédo, c'est-à-dire une réflexion de la lumière du soleil, des rayonnements solaires, qui se fait de manière importante. Donc en fait, très peu, une faible partie du rayonnement solaire atteint la surface, donc la surface n'est pas chauffée par le soleil, mais par l'effet de serre.
Et est-ce qu'on sait comment Vénus pourrait évoluer dans le futur? Parce qu'actuellement, c'est une planète très chaude, avec de l'activité volcanique, beaucoup de pression. Mais est-ce que peut-être un jour, cette atmosphère pourrait s'échapper parce qu'il n'y a pas assez de gravité pour la garder, et on aurait un gros caillou, un gros rocher, un petit peu comme sur Mars, beaucoup plus froid, beaucoup plus désertique?
Non, alors il faut voir que l'activité volcanique, on dit qu'il y a de l'activité volcanique, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a de l'activité volcanique. Attention, pour l'instant, on n'a pas de preuves directes. On a quelques éléments, comme je vous ai dit, avec les variations de teneur en dioxyde de soufre dans la haute atmosphère, ou encore des variations de température de la surface, enfin reconstruite, hein, à partir de l'émissivité de la surface, on a reconstruit des variations de température à certains endroits localisés avec Vénus Express. Mais bon, ce sont des choses qui sont indirectes et qui peuvent être dues à d'autres phénomènes atmosphériques, par exemple, qu'on n'a pas bien pris en compte ou autre. Donc on n'a pas de certitude que la planète est toujours active, mais c'est difficile de penser qu'elle puisse ne pas l'être, en fait. Donc, il y a tous ces édifices volcaniques qu'on a vus, mais surtout, la planète ressemblant en termes de masse et de taille à la planète Terre, on se doute aussi qu'elle a à peu près le même type d'énergie évacuée. Et du coup, même si dans le passé, elle n'a pas évacué son énergie de la même façon que la Terre, on n'a pas de tectonique des plaques à proprement parler comme il y a sur Terre, probablement qu'il reste quand même encore beaucoup d'énergie évacuée, alors que Mars est beaucoup plus petite. En termes de chaleur évacuée, ce n'est pas du tout pareil. Donc on pense que Mars, effectivement, a probablement une activité très, très réduite maintenant, du manteau, de la partie rocheuse. Alors que pour Vénus, on ne voit pas de raison qui ferait qu'elle n'aurait pas cette activité similaire à la Terre. Et ensuite, l'échappement atmosphérique, la gravité sur Vénus est très similaire à celle de la Terre, un petit peu plus faible, mais donc ça ne va pas permettre de faire échapper toute l'atmosphère. Donc je pense que le dégazage va continuer pendant un moment. De là à prévoir quel va être son avenir, c'est compliqué.
Mais pour le moment, c'est un enfer, à la fois pour quiconque voudrait poser le pied, mais aussi pour les sondes spatiales qui voudraient explorer sa surface.
Tout à fait. Oui. Il y a des nouveaux matériaux, apparemment ils travaillent sur des nouveaux matériaux qui pourraient éventuellement supporter ces conditions. Mais il y a les matériaux, puis après il faut faire l'ensemble.
Il faut construire la mission.
Il faut construire tout le reste.
Et bien, nous allons continuer d'explorer Vénus, sa surface et son atmosphère après cette première pause au Labo des Savoirs.
We'll be right back.
écouter Kwesi Evora avec Alchemic Ascension.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
De retour au Labo des Savoirs avec Caroline Dumoulin, planétologue et maître de conférences au laboratoire de planétologie et de géosciences, et nous sommes ensemble pour parler de Vénus et de la mission Envision sur laquelle vous travaillez, et plus précisément sur l'expérience Radioscience. Donc ça veut dire que c'est un instrument à part entière dans la mission. C'est quel est le but? C'est un instrument.
Ouais. Alors c'est un instrument, c'est une expérience. Voilà, c'est une expérience. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement ne repose pas sur un instrument embarqué comme un radar, un spectromètre, une caméra, etc. Mais sur le système de télécommunication du satellite. Donc en fait, on va mesurer par effet Doppler les variations de vitesse du satellite. Et ça va permettre de le repositionner précisément.
L'effet Doppler étant par exemple ce qu'on entend quand on a une ambulance qui passe.
Voilà, exactement. C'est le décalage en fréquence d'une onde. Donc là, une onde radio. Hein, on communique avec le satellite par des ondes radio. Donc nous, on sera en bande X et en bande K. La bande X, c'est à peu près 8 GHz. La bande K, c'est à peu près 32 GHz. Voilà, donc c'est les bandes de communication. Et donc, par cet effet Doppler, on peut mesurer, reconstruire la position, l'orbite précise du satellite autour de la planète. Et l'orbite précise du satellite autour de la planète dépend du champ de gravité de la planète. Et donc, ça permet du coup d'accéder à une donnée importante en sciences de la Terre, qui est le champ de gravité, puisque ce champ de gravité dépend de la distribution des masses à l'intérieur de la planète. Donc c'est un des rares observables en planétologie qui permet d'accéder à l'intérieur, en dehors de la sismologie. Mais comme on l'a déjà dit, les sismomètres, c'est pas très facile à placer, à poser. Il faut des conditions particulières. Et puis c'est voilà, on en pose un, deux, trois, mais ça reste quelque chose de local. Alors que avec le champ de gravité, on a quelque chose de global.
Donc vous me dites en fait qu'en utilisant le système de transmission qui était déjà de toute façon prévu.
Exactement.
À la base, parce qu'il faut bien donner les données.
Tout à fait.
Sur Terre, vous allez pouvoir faire de la science avec.
Exactement. C'est pour ça que ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, c'est de la science qui a été faite de manière un peu collatérale, on va dire. Mais là, on le prévoit depuis le début de la mission, avec du coup des contraintes sur l'orbite en particulier, puisque pour avoir une bonne résolution du champ de gravité, il faut certaines conditions sur l'orbite. Donc on a aussi des contraintes sur la mission, sur les opérations, comme un autre instrument en fait. On va agir de la même manière. Donc ça c'est la partie gravité. Donc on a une partie dans la radioscience, on a une partie champ de gravité. Et puis on a une partie qui est sur l'atmosphère, qui permet d'étudier au moment des radio-occultations, qui permet d'étudier l'atmosphère. Donc les radio-occultations, qu'est-ce que c'est? C'est quand la sonde passe derrière la planète, derrière Vénus, par rapport à la Terre. Donc les ondes radio qui permettent de communiquer passent à travers l'atmosphère de Vénus. Et elles sont déviées, réfractées. Il y a une sorte de courbure du lien radio et qui permet de remonter aux propriétés physiques de l'atmosphère, donc à sa température, à sa densité.
À sa composition.
Alors, à sa composition, ça va être l'atténuation du signal, puisqu'on a une absorption du lien radio qui est lié à certains gaz. Et donc, on suppose des choses sur la composition globale, donc des gaz principaux, hein, CO2, on a déjà vu SO2, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre. Et puis, mais on va pouvoir, grâce à... Donc là, on aura deux bandes, comme je l'ai dit, la bande X et la bande K. Et elles absorbent différemment, en particulier l'acide sulfurique. Et donc, on va pouvoir avoir accès à l'acide sulfurique gazeux et l'acide sulfurique liquide, donc dans les nuages, les gouttelettes d'acide sulfurique. Mais ça sera c'est la première fois que ça sera fait. Parce que des radio-occultations, il y en a déjà eu sur Vénus, hein, avec Vénus Express en particulier. Il y en a déjà eu. Mais bon, c'est local, évidemment, ça va dépendre de où la radio-occultation se fait. Donc, c'est bien d'en avoir d'autres, mais puis pour voir la variabilité aussi. Mais on aura aussi accès à des choses qu'on n'avait jamais eues, puisque là, on a deux bandes. De la bande X et la bande K.
Et j'imagine qu'il va y avoir des instruments au sein de toute cette mission Envision qui sont peut-être dédiés même à l'étude de l'atmosphère. Donc ce sont vraiment des données qui vont venir en complément et observer d'une autre façon la température, la composition, la structure de cette atmosphère.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les autres instruments qui sont dédiés à l'atmosphère, ce sont donc des spectromètres dans l'ultraviolet, donc un spectromètre français, et dans l'infrarouge qui est belge, donc partie belge. Et donc
un spectromètre étant chargé en fait d'étudier la composition.
Voilà, c'est
d'un matériau.
Exactement. C'est le rayonnement du matériau, justement, comme vous dites, des atomes qui vont permettre des molécules qui vont permettre de remonter donc à la composition. Et donc, en fonction de la bande spectrale qui est regardée, on va pouvoir détecter certains composés. Donc, ça va être plutôt le dioxyde de soufre aussi, l'eau, des éléments comme ça, qui vont être plusieurs composés du soufre, etc., et qui vont pouvoir être mesurés à différentes altitudes aussi.
Dans l'atmosphère.
Voilà, en dessous des nuages ou au-dessus des nuages, en fonction. Et puis, mais par contre, ces instruments ne permettent pas de remonter à la température. Donc la structure en température et en densité vient vraiment des radio-occultations.
Et est-ce qu'on va étudier également la surface?
Alors voilà.
D'une façon ou d'une autre?
Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment le cœur de la mission Envision. C'est pas l'atmosphère. Donc il y a des instruments pour l'atmosphère, mais le cœur de la mission, c'est vraiment essayer de voir, justement, d'avoir un peu plus de contraintes sur la surface de Vénus, sur son évolution, sur son activité. Et donc ça, grâce à... Puisque ça fait longtemps que ça n'a pas été étudié. Hein, c'est Magellan, dans les années 90, donc cette mission américaine, qui est la dernière à l'avoir fait. Les deux dernières missions, les missions qui ont lieu après Magellan, c'était Vénus Express et Akatsuki, qui est actuellement une mission japonaise, actuellement en orbite autour de Vénus, mais les deux se sont consacrés uniquement à l'atmosphère. Et donc, pour étudier la surface, Envision va embarquer un radar, donc un radar en bande S, comme l'avait Magellan. Pourquoi un radar? Parce que, donc, comme je vous ai dit, il y a des pénuages d'acide sulfurique dans l'atmosphère de Vénus, ce qui fait qu'on ne peut pas voir à travers, donc on ne peut pas utiliser de caméra. En visible, ça ne passe pas. Et donc, il faut regarder, en fait, à la surface dans une autre longueur d'onde. Et donc, on utilise des radars.
Et quel genre de données on peut récupérer, du coup, avec ces radars qui vont traverser l'atmosphère?
Voilà, mais donc du coup, on regarde donc on envoie une onde, effectivement, en mode actif. On envoie une onde et on récupère l'onde qui revient.
Qui rebondit,
qui est réfractée, sur la surface. Et donc, les propriétés de cette réflexion, si vous voulez, permettent de reconstruire des images. On a des images radar avec des endroits plus sombres, des endroits plus clairs. Donc, c'est pas directement c'est pas une photo, si vous voulez, hein. Donc, faire attention, parce qu'en fonction de l'angle d'incidence du ray, on va avoir des choses différentes. Voilà, c'est pas si facile que ça à étudier, mais on peut faire des stéréos en ayant deux visions, deux angles de vision différents. On peut avoir des effets stéréo. Et ça permettra d'étudier avec donc la résolution visée. C'est sur certaines régions d'avoir des régions d'intérêt, hein, d'avoir 30 mètres mètres par pixel, alors que je vous ai dit Magellan, c'était de l'ordre de 150 à 200 mètres par pixel, et jusqu'à potentiellement 10 mètres par pixel.
Du coup, avec ce radar qui va vraiment rebondir et réfracter sur la surface de Vénus, on va pouvoir avoir des informations sur la structure, sur la hauteur, la profondeur de ce qui caractérise sa surface. Est-ce qu'on aura aussi des informations sur la composition de la surface?
Alors pas avec le radar. Compliqué. On peut avoir des indices sur l'état de la surface avec le radar, c'est-à-dire si c'est une surface lisse, si c'est une surface rugueuse, etc. Donc sur l'altération ensuite par rapport à des coulées volcaniques fraîches et des coulées volcaniques anciennes peuvent avoir des surfaces différentes. Donc ce genre de choses, mais pas sur la composition. Pour la composition, il y a donc dans la suite, ce qu'on appelle la suite Venspec. Donc je vous ai parlé de deux des instruments qui sont de l'atmosphère, hein, en ultraviolet, en infrarouge. Et il y a aussi un spectromètre infrarouge qui est calibré pour viser, si vous voulez, dans les fenêtres spectrales qui laissent passer, que l'atmosphère laisse passer. Voilà, exactement. Donc l'atmosphère laisse passer, n'absorbe pas dans certaines bandes spectrales. Donc on va viser là-dedans pour essayer d'aller récupérer justement le rayonnement de la surface pour pouvoir mesurer justement le rayonnement de la surface dans ces bandes-là.
Le petit trou de souris par lequel on peut passer.
Exactement.
On arrive à soutirer des informations.
Voilà, tout à fait. Je crois que c'est 6 bandes spectrales. Et du coup, si vous regardez, on espère pouvoir remonter alors à la composition pas précise, mais entre un granit et un basalte, par exemple, vous n'avez pas le même comportement dans ces bandes spectrales. Donc, on espère avoir la résolution suffisante pour, si jamais on a ce différent type de roche, pouvoir un petit peu essayer de voir ces différents types de roches à la surface de Vénus.
Et quelles seraient les conclusions qu'on pourrait avoir? Enfin, les conclusions, c'est peut-être un peu tôt, mais au moins des hypothèses qu'on pourrait tester sur le type de roche qu'on rencontre, justement. Qu'est-ce que ça pourrait susciter
si on
comme
a,
intérêt?
Alors, donc, il y a des régions à la surface de Vénus qui s'appellent les tesseras, qui sont des régions très, très anciennes, enfin, a priori, les régions les plus anciennes, hein, qui sont très déformées, et qu'on considère, alors peut-être à tort, hein, comme un petit peu des continents, une sorte d'analogue des continents terrestres. Et donc, si éventuellement ils ont une caractérisation de granit, enfin s'ils sont caractérisés comme étant des granites, enfin composés de granit, effectivement, ça voudrait dire qu'ils sont formés un petit peu comme les continents terrestres. Il faut un contexte d'eau, il faut pas mal d'eau aussi, si on veut avoir ce type de roche. Donc, enfin voilà, ça permet de donner des indices sur les contextes de formation des roches de surface et sur un petit peu sur l'évolution, comme un peu de contraindre ce que je vous disais, un peu de contraindre les modèles, puisqu'on n'a pas de tectonique des plaques à proprement parler comme on a sur Terre, avec de grandes plaques rigides et des déformations vraiment au bord des plaques. On aurait plutôt une sorte de tectonique de blocs avec des blocs beaucoup plus petits, mais il y a des structures tectoniques, il y a des mouvements, etc. Mais on n'a pas le même fonctionnement de la surface que sur Terre.
Alors vous me parlez d'eau, évidemment je suis obligée de rebondir dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui a animé beaucoup de missions spatiales et de recherches en général. Est-ce qu'il y a encore une volonté de chercher des traces d'eau ou une détection indirecte par le passé d'eau, même sur Vénus?
Alors, par le passé, oui, enfin, dans le sens où ça serait bien qu'on ait des indices pour savoir s'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Vénus, parce qu'effectivement, s'il y en a eu, ça permet de savoir que certaines catégories de modèles qui ne l'autorisent pas ne sont pas adaptées. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Après, à l'heure actuelle, on sait que non, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Il y a de l'eau dans l'atmosphère, peu. Mais il y en a. Et déjà, c'est important, sa composition, etc. C'est aussi important de savoir sa composition, elle.
Parce que eau ne veut pas dire vie.
Non.
Absolument pas. Il faut que cette idée reçue sorte de nos têtes. Mais c'est un témoin d'une activité qu'il y a pu y avoir. Mais vu les conditions extrêmes de Vénus, de toute façon, c'est difficile d'imaginer peut-être la vie telle qu'on a pu la rencontrer sur Terre. Il faut imaginer d'autres choses.
Oui, tout à fait. Il y a même des choses exotiques qui ont été imaginées, comme de la vie dans les nuages de Vénus, puisque, en fait, si on cherche des températures, pressions équivalentes à ce qu'on connaît à la surface de la Terre, à l'heure actuelle, c'est dans les nuages qu'on les trouve.
Enfin, eau n'est pas égale à vie et qu'on peut trouver peut-être des zones sans eau mais qui seraient habitables, peut-être quelque chose comme ça, ou inversement, des zones habitables, dites habitables, dans une zone d'habitabilité.
C'est vrai que les zones d'habitabilité, on les relie toujours à l'eau. Hein. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est défini. Hein. On cherche de l'eau liquide. Quelque chose pour l'énergie, un composé d'un déséquilibre chimique, lumineux, autre, pour avoir le moteur, si vous voulez, mais énergétique. Mais c'est ce qui est intéressant avec Vénus, c'est moins la vie actuelle, c'est moins ça que le fait que quand on regarde dans la communauté des exoplanètes, des gens qui étudient les exoplanètes, beaucoup de gens cherchent des terres. Des terres dans d'autres systèmes, voilà. Ouais, puis des terres, c'est-à-dire que, qu'ils soient des planètes qui soient du même style que la Terre, en termes de masse, de taille, etc., et de distance au Soleil. Mais si on regardait, si on se plaçait dans un autre système solaire et qu'on regardait le nôtre, on verrait Vénus et la Terre, on se dirait, ah ben les deux sont habitables, peut-être. C'est-à-dire qu'en termes de taille, de distance, voilà, rien ne les distingue vraiment, alors qu'en fait, une l'est et l'autre pas. Donc, c'est justement ça aussi, c'est de comprendre quelle est l'évolution qui fait qu'on va basculer d'un côté ou de l'autre.
Mais nous allons continuer à en parler dans la suite de cette émission après une pause musicale, et on va parler plus précisément même de l'ensemble de la mission dans laquelle Envision fait partie, qui est Cosmic Vision. Diasonics
avec Andromeda.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
De retour au Labo des Savoirs, toujours avec Caroline Dumoulin, planétologue au LPG à Nantes Université. Et nous parlons aujourd'hui de Vénus et de la mission Envision, qui elle-même fait partie du programme plus global de l'ESA, qui est Cosmic Vision. Mais Sophie, qu'est-ce que donc ce programme Cosmic Vision ?
Eh bien, Dounia, Cosmic Vision, c'est un nom un peu stylé pour un méga programme d'observation de l'espace porté par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Il prend la suite du programme Horizon 2000, initié dans les années 90, et doit couvrir 10 ans de missions spatiales de 2015 à 2025. La réflexion autour de ce nouveau programme a commencé en 2005, date à laquelle le comité de conseil scientifique de l'Agence a dégagé 4 grandes questions. Quelles sont les conditions de formation d'une planète et d'émergence de la vie ? Comment le système solaire fonctionne-t-il ? Quelles sont les lois fondamentales de la physique de l'univers ? Et comment est apparu l'univers actuel ? De quoi est-il fait ? Plusieurs missions ont été proposées par les scientifiques européens pour répondre à ces questions. Seules les meilleures et les plus réalistes en termes de coûts ont pu intégrer le programme Cosmic Vision. Retour sur ses débuts avec un extrait d'un documentaire de l'ESA mis en ligne en 2007 sur la chaîne YouTube Euronews avec David Southwood, le directeur du programme scientifique de l'époque.
Les chroniques de l'espace en partenariat avec l'Agence spatiale européenne.
Selon moi, un des points clés de Cosmic Vision, c'est la coopération internationale.
Cosmic Vision, un concours lancé sous l'égide de l'ESA pour définir et structurer les grandes missions scientifiques de 2015-2025. Deux secteurs sont prioritaires, l'astrophysique pour comprendre les mécanismes de notre univers et l'étude en profondeur de notre système solaire. Des missions européennes qui ne pourront se passer de coopération internationale.
L'un des buts de la science spatiale est d'apprendre à travailler ensemble. Comment les Américains travaillent avec les Européens, comment les Européens travaillent avec les Russes ou les Chinois, les Indiens, les Japonais. Avant tout, on crée notre propre langage pour communiquer. Ne vous méprenez pas, les cultures sont très différentes, mais on apprend à travailler ensemble, on apprend à connaître nos points forts et à se reposer sur les points forts des autres.
Vous l'avez entendu, la coopération internationale, c'est la clé de la recherche scientifique et elle permet aussi de mettre en commun des moyens financiers. Pour Envision, la mission vers Vénus, dont on parle dans cette émission, la NASA a par exemple accepté de mettre de l'argent sur la table, notamment pour financer un des instruments de mesure. Une aide bienvenue des Américains, car en science, on manque toujours d'argent pour la recherche. Un point qu'avait déjà anticipé David Southwood au début du programme.
Si vous dites à des scientifiques, proposez-nous vos meilleures idées, alors ils arriveront avec des projets très très chers, parce qu'une chose est sûre, l'imagination des scientifiques est loin d'être limitée. Donc nous avançons l'idée d'une petite mission, une mission M, c'est-à-dire à moyen terme, qu'on a des chances de voir se réaliser plutôt qu'une mission lointaine. Pour une personne ordinaire, c'est une question de bon sens, mais pour un scientifique, cela nécessite une explication.
Initialement réparties entre l'astrophysique et l'étude du système solaire, les missions ont été ensuite regroupées en celles de type M pour moyenne durée ou d'éloignement moyen et celles de type L pour longue durée ou lointaine.
Cosmic Vision englobe donc plusieurs missions de dimensions différentes. Si l'on simplifie, mission petite, S, mission moyenne, M et mission lourde, L, comme les tailles de t-shirt. Sauf que cette classification dépend du coût de la mission. Les petites missions ont un budget qui ne dépasse pas 50 millions d'euros, alors que les missions lourdes peuvent atteindre 900 millions d'euros, le budget plafond. À ce jour, en mai 2022, seules deux missions ont déjà été lancées dans le grand vide de l'espace. Une petite, Kéops, en décembre 2019, pour observer d'éventuelles exoplanètes, et une moyenne, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Solar Orbiter, partie en février 2020 pour observer notre Soleil en détail. Mais plusieurs autres missions sont au programme. Envision, bien sûr, sélectionné en juin 2021 pour intégrer le programme qui vise la planète Vénus à l'horizon 2032. Euclide, mission de taille moyenne, programmée pour 2023, un télescope dont les observations vont peut-être permettre de déterminer l'origine de l'accélération de l'expansion de notre univers. Il y a aussi SMILE, en coopération avec la Chine, pour étudier le lien entre vent solaire et champ magnétique terrestre, ou encore JUICE, prévu pour l'été 2023, pour aller à la rencontre des satellites naturels de Jupiter. Ce méga-programme Cosmic Vision n'a donc pas fini d'observer l'espace qui entoure notre toute petite Terre, et peut-être que grâce à lui, les questions posées en 2005 trouveront un jour un début de réponse.
La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
De retour au Labo des Savoirs, toujours avec Caroline Demoulin pour parler de Vénus et de la mission Envision, qui fait partie d'une mission beaucoup plus globale de l'ESA, qui s'appelle Cosmic Vision. Une des missions de Cosmic Vision, qui est donc de trouver les conditions de formation d'une planète et de l'émergence de la vie, j'imagine que Envision pourrait répondre au moins partiellement à cette question-là, voire peut-être la formation du système solaire et celle de la Terre.
En planétologie comparée, forcément, voilà, on compare, on apprend sur la Terre grâce aussi aux différences qu'elle a avec les autres. Donc, comme je vous ai dit, Vénus et la Terre ont manifestement évolué de manière différente. Est-ce qu'elles se sont formées de manière différente? Est-ce que c'est l'évolution liée à la distance au Soleil, liée à la composition, liée à des choses? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'une arrive comme la Terre avec des océans à la surface, une biodiversité, etc. Et puis Vénus sans eau, une température importante, une atmosphère épaisse, etc. Donc quel est vraiment le critère? Enfin, il n'y a pas qu'un critère, mais bon. Voilà, la Terre a un champ magnétique, Vénus n'en a pas. Enfin, il y a beaucoup de différences pour deux planètes qui se ressemblent sur le papier, qui devraient se ressembler.
Voilà. Et pour cette mission-là, il y a eu beaucoup de laboratoires français, européens qui ont été enfin, qui ont investi du coup cette mission.
Ouais. Donc du coup, voilà, on est donc en France, donc sur deux axes, hein, l'expérience de radioscience et la partie ultraviolet du spectromètre, donc de l'atmosphère. Il y a donc la partie belge du spectromètre. Il y a une partie allemande pour la surface. Comme je vous ai dit, pour la composition de la surface, c'est une partie allemande. Et il y a un subsurface radar sonde. Un radar de subsurface qui est italien, qui permettra de voir les interfaces dans l'approche subsurface, donc quelques centaines jusqu'à un kilomètre de profondeur, quelque chose comme ça, pour voir un petit peu la structure superficielle, mais par exemple les cratères, le remplissage des cratères, l'épaisseur des coulées ou des choses comme ça. Et ça, c'est une première sur Vénus. Cet instrument n'a jamais été utilisé sur Vénus. Il a été utilisé sur Mars, enfin, le même type d'instrument sur Mars, mais pas sur Vénus. Donc ça, c'est pour l'Europe, et puis surtout il y a les États-Unis quand même, puisque le radar c'est la NASA. Sans le radar, pas de mission, et donc la NASA nous apporte une grande aide avec le radar.
Donc ça montre bien qu'on est encore dans une grande collaboration internationale avec des laboratoires de beaucoup de pays différents.
Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, puis là, ce sont donc les pays qui portent les instruments. Mais après, dans les équipes scientifiques et qui vont permettre de la mise en place de la mission jusque ensuite le traitement des données, etc. C'est complètement international.
Oui, donc pour ce genre de collaboration, on parle d'une Envision qui va être lancée a priori en 2032. Si tout va bien, ça doit mettre du coup des années à se monter, à se mettre en place. Combien de temps vous avez travaillé sur cette mission alors qu'elle n'est même pas encore lancée?
Ouais, alors moi je suis arrivée sur le projet de mission en 2014 et le projet de mission avait déjà été déposé une fois à l'ESA, il n'avait pas été accepté. Je suis arrivée en 2014, la première fois il n'a pas été accepté, la première fois où moi j'étais dans le projet, donc la deuxième fois pour Envision ça n'a pas été accepté, la troisième fois s'est passé, donc on a été présélectionné en 2018. On a été sélectionné là en 2021 pour une adoption en 2024, définitive on va dire, et ensuite un lancement en 2032 a priori.
Donc ça met vraiment beaucoup de temps, oui. de juste lancer un petit satellite dans l'espace.
Oui, bah oui, puisqu'il y a le design du satellite, il faut faire le travail avec les industriels, tout le travail d'ingénierie sur les instruments. Certains sont développés. Alors, la plupart des instruments ne sont pas des instruments nouveaux. Ils ont déjà été utilisés sous une forme un peu différente, peut-être, mais ce sont des instruments qui existent déjà. Il n'y a pas de grandes nouveautés, donc de grands risques dans la mission. Mais malgré tout, il faut tout construire et tout tester, surtout de nombreuses fois sur de nombreux modèles avant de pouvoir partir, quoi.
Et ça démontre le temps long de la science, parce que même pour une simple entre guillemets expérience scientifique sur Terre, ça peut prendre des années, des mois à être pensé. Est-ce que ce sera toujours comme ça, même si la technologie évolue, il faut qu'on comprenne que la science, ça met du temps à être pensée, à être faite, être analysé aussi, parce qu'il y aura, une fois que les données seront arrivées, il faudra un temps fou pour les analyser, j'imagine.
Oui, ça prend même souvent aussi longtemps d'analyser les données, surtout quand il y en a beaucoup, donc c'est plutôt bien, c'est mieux quand il y a beaucoup de données à analyser, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. Après, certains sont plus rapides, les Américains sont un peu plus rapides entre l'adoption et le lancement, ils sont un peu plus rapides que l'Agence spatiale européenne, parce qu'on a aussi des instruments peut-être de diverses origines et puis c'est pas les mêmes procédures, voilà, chacun a sa façon de faire, mais de toute manière, même pour les Américains, c'est quand même un temps assez long, mais c'est ce qu'il faut pour ne pas envoyer n'importe quoi non plus.
Et que ça fonctionne.
Et que ça fonctionne, voilà.
Et est-ce qu'on pense déjà à la suite de la suite?
Alors, la suite de la suite, pour l'Europe, je dirais non, parce que ça se fait au fur et à mesure, et donc chaque appel à projet s'enchaîne, etc. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur la suite, mais on est plutôt sur la coopération entre différentes missions, puisque les Américains vont envoyer deux missions vers Vénus un tout petit peu avant nous. Donc en 2028, a priori, donc là c'est pareil, 2028, 2029, c'est pas calé non plus. Donc il s'agit de Veritas et de Da Vinci Plus. Donc ces deux missions, Veritas c'est un orbiteur aussi, comme Envision, avec un radar aussi, mais pas dans la même bande de fréquence que le radar d'Envision. Donc pas les mêmes capacités, on va dire, pas les mêmes propriétés, pas les mêmes capacités. Donc ça sera complémentaire. Et puis ils feront aussi du champ de gravité et le spectromètre de la surface. Et lui sera le même, mais qui n'opérera qu'à certaines périodes de la mission, et alors que nous, on a une mission beaucoup plus longue, eux, ils ont une mission plus courte. Donc voilà, c'est complémentaire, on a des objectifs un peu similaires en termes de science, on va dire, mais les données seront tout à fait complémentaires. Et Da Vinci Plus, lui, c'est une sonde, un peu comme Huygens sur Titan, si vous voulez. Donc il va descendre dans l'atmosphère de Vénus, au-dessus d'une tessera, justement, une de ces régions a priori anciennes et très déformées de la surface de Vénus. La descente durera un peu plus d'une heure, je crois, une heure et demie, quelque chose comme ça. Et donc, la sonde va échantillonner l'atmosphère, analyser l'atmosphère et photographier aussi sa descente une fois qu'elle sera sous les nuages, donc dans la partie visible aussi. Et donc jusqu'à la surface, elle n'est pas vraiment prévue pour atterrir et en tout cas pas pour durer du tout à la surface.
Donc en l'espace de 7-8 ans à peu près, il y aura trois missions différentes qui vont explorer Vénus, en plus de vraiment de l'atmosphère jusqu'à la surface.
Jusqu'à l'intérieur.
Jusqu'à l'intérieur.
Avec le champ de gravité, on a des informations sur l'intérieur. Ouais.
Donc on va tout savoir de Vénus.
Alors tout
relativement bientôt.
Probablement pas, mais il faut voir quand même en comparaison qu'autour de Mars, il y a actuellement 8 sondes en activité. 8 satellites sont actuellement autour de Mars. Bon voilà, en 65 ans, je crois que la NASA a lancé 11 orbiteurs et 8 landers sur Mars. Et elle en a lancé 2 orbiteurs en tout et pour tout vers Vénus. Et le dernier, donc c'était Magellan 1994. Donc on a un petit peu de retard. Et ça sera, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc de toute façon, on se pose pas de questions là-dessus. Il y a d'autres projets, hein. Il y a des projets indiens, chinois. Il y avait un projet russe de Venera D. suite du programme très ancien, voilà. Donc, mais après, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas encore finalisées, financées, etc.
On rattrape un peu le temps perdu parce que la compréhension de même l'apparition de la vie sur Terre, de la formation du système solaire, ça reste des questions auxquelles pour le moment on n'a pas vraiment de réponse.
Non, il y a des éléments de réponse, hein, comme dans beaucoup de domaines, on a des éléments de réponse, mais on n'a pas de réponse. Définitive, non, ça c'est sûr.
Donc l'exploration spatiale a encore de très beaux jours devant elle. Bah, merci beaucoup Caroline Dumoulin d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
Merci à vous.
C'est la fin de notre émission aujourd'hui au Labo des Savoirs. Merci à Caroline Dumoulin et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole pour avoir permis cette rencontre. Et merci à Sophie Potvin pour sa chronique. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
FM.